France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 19 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un troisième confinement pour près d'un tiers des Français. Le Premier ministre a annoncé hier de nouvelles restrictions dans 16 départements avec l'ambition de freiner l'épidémie tout en laissant aux habitants la possibilité de s'aérer. Dès le début du journal, les règles de cette troisième voie, les réactions, les inquiétudes des commerçants obligés de fermer, tout cela après les autres titres.
Le télétravail recommandé 4 jours sur 5, avec là aussi un équilibre à trouver entre santé et morale pour les salariés. L'histoire de cet infirmier malien qui se voit refuser la nationalité française parce qu'il travaille trop. Et l'interminable attente pour le skieur français Alexis Peintureau qui pourrait dès demain décrocher le gros globe de cristal.
Invité et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, le débat éco du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux débattront de l'impact économique des mesures annoncées hier soir par Jean Castex, qu'on analysera sous l'angle médical, cette fois à 8h20, avec l'infectiologue épidémiologiste, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, la professeure Karine Lacombe, et le chef de service anesthésie-réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le professeur Jean-Michel Constantin. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Freiner sans enfermer, c'est donc le nouveau credo de l'exécutif qui va concerner à partir de ce soir minuit les 21 millions d'habitants des régions Hauts-de-France, Île-de-France et des départements de l'Eure, de la Seine-Maritime et des Alpes-Maritimes. Concrètement, les écoles restent ouvertes, seuls les lycées passent ou repassent en demi-groupe. Le couvre-feu est repoussé dans tout le pays à 19h pour tenir compte du changement d'heure qui aura lieu le week-end prochain. Les sorties dans la journée ne sont pas limitées dans le temps, mais dans un rayon de 10 km autour de soi et avec une attestation. Et pour faire accepter ces nouvelles mesures, Simon Le Baron, le Premier ministre a insisté hier sur ce bol d'air offert aux confinés de la troisième vague.
Le Premier ministre le répète, ce nouveau confinement n'est ni celui de mars, ni celui de novembre.
C'est une troisième voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
Surtout, ne pas donner l'impression d'un retour en arrière un an tout juste après la première mise à l'arrêt du pays. Restez chez vous, implorait le gouvernement à l'époque. Il nous dit désormais, aérez-vous.
La règle du jeu est claire. Profitons librement des espaces extérieurs, mais soyons hyper rigoureux pour proscrire les regroupements privés ou dans l'espace public.
Certes, Jean Castex nous demande de ne pas faire de barbecue ni de covoiturage, mais on ne va pas mettre un flic au pied de chaque immeuble, ironise un proche. Malgré l'épuisement général, il faut donc que les 21 millions de Français concernés acceptent ces nouvelles contraintes, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, renacle d'ailleurs, a appelé confinement.
Je ne sais pas quel nom il faut donner à ces mesures fortes qui sont prises pour protéger les Français, mais vous aurez noté qu'il y a une différence qui est notable, qui est que nous tournons davantage vers l'extérieur.
Il faut aussi dire que 40 millions de Français ne sont pas confinés, souligne un conseiller, à l'heure où beaucoup s'interrogent sur la décision de ne pas remettre le pays sous cloche fin janvier.
Et je pense que nous avons bien fait.
L'exécutif entend toujours prouver qu'il ne s'est pas trompé. Pour cela, il faut à tout prix que ces mesures territorialisées portent leurs fruits.
Laissez respirer les Français, donc, mais dans un rayon très limité, car les déplacements entre les 16 départements concernés seront impossibles à partir de demain. Les nouvelles règles avec Sophie Parmentier.
À partir de ce soir minuit, dans les 8 départements de l'Île-de-France, les 5 départements des Hauts-de-France, mais aussi dans l'Eure, en Seine-Maritime et dans les Alpes-Maritimes, le gouvernement veut freiner les déplacements sans enfermer la population. Il sera donc toujours possible de sortir de chez soi pour aller travailler, emmener ses enfants à l'école et même pour se promener ou faire du sport au grand air aussi longtemps qu'on veut dans la journée. Mais la balade tranquille ou sportive sera limitée dans un rayon de 10 km maximum et il faudra une attestation que dévoilera aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Tous les déplacements interrégionaux seront en revanche interdits dans la liste de ces 16 départements, sauf motif impérieux ou professionnel. Le gouvernement ne semble pas vouloir déployer des policiers en masse. Le Premier ministre en appelle à la responsabilité, dit qu'il ne veut pas infantiliser, mais il va passer de nouvelles consignes aux préfets pour réprimer les attroupements dans des parcs ou devant des bars restaurant de vente à emporter. Enfin, le gouvernement fixe une nouvelle heure de couvre-feu, 19h pour tout le territoire.
Et la SNCF annonce maintenir tous ses trains ce week-end au départ de Paris. Ils sont d'ailleurs quasiment complets aujourd'hui, signe peut-être d'une nouvelle fuite des Franciliens vers des régions moins touchées. Ensuite, la circulation des TGV, Ouigo et Intercité pourrait être réduite. On devrait connaître dans la journée les prévisions de trafic pour la semaine prochaine. Alors justement, comment ont réagi ces nouveaux confinés? Un an tout juste après le premier confinement, ce retour aux attestations est assez mal vécu par ces jeunes Parisiens en colocation avec qui Victor Vasseur à écouter les annonces du gouvernement.
Ils sont tous réunis dans le salon, devant la télévision. Certains voisins sont venus. Jean Castex dévoile les nouvelles mesures de restriction. Alexis à la mine des confites.
Encore un. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est le troisième, ça fait un an. L'histoire se répète. On voit pas la fin.
Le sentiment de revenir en arrière. François, 26 ans, est prêt à quitter la région parisienne pour se confiner dans une maison de campagne.
Des fois, ça peut être compliqué en fait, de rester confiné dans des tout petits espaces, dans des petits appartements à Paris où on est beaucoup. Quand on est obligé de rester dans un appartement, on doit tourner en rond. Les seules sorties qu'on peut faire, si on n'a pas d'animal de compagnie ou quoi, c'est vraiment juste pour aller faire des courses. Au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi.
De nouveau confiné, mais pas question de faire une croix sur sa vie sociale.
Je pense qu'avec des amis, on réussira quand même à se voir aussi.
Adèle, élève avocate, pense que le confinement ne durera pas un mois, mais plus longtemps. Et elle rêve d'un été en totale liberté.
Il y a un peu ce côté, mieux vaut genre se faire un mois et demi où on est un peu plus confiné et quand on met vraiment on soit libéré que continuer cette espèce d'entre-deux bancal jusque juin sans s'arrêter. Quoi.
Une certitude entre ces trois colocataires, dès qu'ils le pourront, ils iront se faire vacciner.
La campagne de vaccination justement va reprendre cet après-midi avec le vaccin AstraZeneca, jugé sûr et efficace hier par l'Agence européenne du médicament. Et Jean Castex va montrer l'exemple en recevant aujourd'hui une première dose de ce vaccin. L'objectif est toujours de 10 millions de Français vaccinés fin avril, 20 millions fin mai. Pour l'heure, ce sont 5 750 000 personnes qui ont reçu une première dose.
Il est 7h07 et ce sont 110 000 commerces jugés non essentiels qui vont devoir baisser le rideau, Agnès, ce soir pour 4 semaines.
Les fleuristes, coiffeurs, boutiques de vêtements, de maroquinerie, de déco, bijouterie, parfumerie, qui depuis un an subissent la crise de plein fouet. Bercy annonce 1,2 milliard d'euros d'aide par mois. Nous entendrons l'inquiétude de ces commerçants dans le journal de 7h30. Vont donc rester ouverts les magasins d'alimentation, les marchés couverts et découverts, les tabacs, les magasins de télécom, les librairies et les disquaires. Et pour tous les autres secteurs, le gouvernement recommande 4 jours de télétravail sur 5, car selon une étude de l'Institut Pasteur, les contaminations au travail représentent 29% des cas de Covid. On a déjà fait des efforts, répond Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, mais il faut aussi prendre en compte le facteur humain.
Le tout télétravail, il n'est pas bon pour les salariés, il n'est pas très bon pour les entreprises non plus. Donc c'est un équilibre d'intérêt entre les deux. Je crois que les entreprises ont fait des efforts, elles doivent continuer à en faire pour celles qui n'en font pas assez. Je trouve que c'est un peu injuste de dire qu'elles ne font pas d'efforts, elles en font beaucoup, surtout qu'on s'installe dans un temps très long, si vous voulez. Et donc ça désorganise quand même un peu votre entreprise, ce système-là. Si sur un plan collectif, tout le monde est d'accord pour le télétravail le maximum, sur un plan individuel, vous gérez des cas individuels de gens qui vous disent « je veux revenir, j'en peux plus ». Et on doit gérer sur le terrain cette réalité humaine-là, si vous voulez. Sur un plan sanitaire, on ne conteste pas les mesures, évidemment. Mais les conséquences humaines de ces mesures, on les gère au quotidien, on essaye de faire au mieux.
Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Et sur franceinter.fr, vous retrouverez le détail de tout ce qui change ou ne change pas dans les 16 départements reconfinés. Eux vont pouvoir relancer leurs élevages. Les producteurs de poules pondeuses, de poulets et de pintades du Sud-Ouest sont autorisés à relancer leur activité stoppée en décembre en raison d'une épidémie de grippe aviaire. En revanche, les éleveurs de canards et d'oies vont devoir encore un peu patienter compte tenu de leur plus forte sensibilité au virus. Lui se voit refuser depuis des mois la nationalité française sous prétexte qu'il travaille trop. Cet infirmier malien vit en France depuis 20 ans. Il fait partie des personnels soignants en première ligne depuis un an. Mais l'administration a refusé à 2 reprises de le naturaliser car il déclare trop d'heures de travail et dépasse le plafond légal. Récit signé Yann Gallic.
Depuis le début de la crise sanitaire, il ne compte pas ses heures. Brahima cumule 2 postes d'infirmier, l'un à temps plein en CDI dans un hôpital privé et l'autre à mi-temps dans une maison de santé de la banlieue parisienne.
Avec la crise, on fait beaucoup d'heures. On est vraiment sollicité dans tous les services, surtout aux urgences et puis en réanimation. je suis en première ligne.
Brahima travaille parfois jusqu'à 60 heures par semaine. Il dépasse donc la durée maximale autorisée par la loi. C'est pour cette raison que la préfecture a refusé à deux reprises sa demande de naturalisation. Pourtant, Brahima vit ici depuis près de 20 ans et ses trois plus jeunes enfants ont la nationalité française.
Ils ont dit on ajourne la demande soi-disant que je travaille trop. Franchement, ça m'a vraiment j'étais un peu choqué.
Une décision incompréhensible selon la juriste Clémentine Parlier. Elle a accompagné bénévolement Brahima dans ses démarches administratives.
Dans le cadre d'une ordonnance qui est parue au mois de mars 2020 pour faire face à la pandémie, la durée maximale du travail a été augmentée à 60 heures par semaine. Et à ce titre, Brahima était parfaitement dans le respect des dispositions en vigueur.
Brahima a déposé un recours auprès du ministère de l'Intérieur qui étudie son dossier et qui devrait lui donner une réponse avant le mois de juin.
Yann Gallic. Notre présent est menacé, notre avenir aussi. La jeunesse se mobilise une nouvelle fois. Les militants dénoncent ce qu'ils appellent l'inaction du gouvernement face au climat, mais aussi face à la précarité étudiante. Une trentaine de manifestations sont prévues aujourd'hui et demain dans l'Hexagone à Paris. Le cortège partira cet après-midi à 14h de la place du Panthéon. Partira, partira pas. Attente interminable pour le skieur français Alexis Pinturo. À deux spatules du gros globe de cristal. En raison du mauvais temps en Suisse, les épreuves des finales de la Coupe du monde de ski alpin sont annulées les unes après les autres. Nouvelle journée d'attente aujourd'hui, avant peut-être de pouvoir demain disputer le géant. Guillaume Batin a pu joindre Alexis Pinturo.
Il n'y a pas de confinement ni de couvre-feu en Suisse. Tous les magasins du canton des Grisons sont ouverts, les restaurants aussi. Mais Alexis Pinturo patiente à l'hôtel, dans sa bulle, avec son épouse et son père. Et les heures sont longues avant de pouvoir remonter sur les skis.
On fait du sport, moi je prends l'air, je vais me balader dehors. Puis après on fait aussi des jeux de société, on essaye de s'occuper avec des jeux de cartes, etc.
Et surtout pas de lecture, ni d'articles dans la presse spécialisée, ni sur les réseaux sociaux.
Je lis jamais déjà trop les articles parce que j'aime pas trop ça. Je suis pas trop mégalo et j'aime pas trop lire des choses sur moi ou justement ce qu'on peut aussi dire et supposer. Je préfère rester un peu dans mon coin et faire mon truc. Ouais.
Ces deux annulations de course profitent au leader de la Coupe du Monde. Le gros globe de cristal se rapproche un peu plus, mais la pression est toujours là.
Ça reste un facteur de stress assez important dans le sens où oui, on n'est pas complètement dans la course parce qu'on sait que les choses sont mises en stand-by, mais on est aussi quand même toujours un peu à l'affût, toujours un peu présent nerveusement pour pas complètement sortir de notre journée et qu'on soit prêt à partir du coup.
Alexis Pinturo n'a plus qu'une seule idée en tête, ramener le gros globe de cristal chez lui à Courchevel dès demain si possible, le jour de son 30e anniversaire.
Ce serait effectivement un beau cadeau. Et puis le calendrier de la fin du tournoi des Six Nations est arrêté. Demain après-midi, Écosse, Italie et Irlande, Angleterre. Avant France-Pays de Galles à 21h. Et puis France-Écosse, ce sera officiellement le 26 mars au Stade de France.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, secret d'info sur le fiasco Mediapro qui a mis le football français en péril.